CIBL, au cœur de la culture.
Philippe, tu vas chercher les enfants à la garderie, j'ai mon cours de yoga.
Julie, on n'a pas d'enfants.
Il est 18h.
CIBL 101.5.
Mars 2024.
Bienvenue à une nouvelle émission de Plaisir Gourmand. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Plaisir Gourmand, l'antenne de CIBL. C'est Gilda Meneux, cette semaine au micro, qui a le plaisir d'animer cette émission avec nul autre que notre mixologue en résidence. Elle a pris racine dans le studio, Fanny.
Ça fait 12 ans que je prends racine, Gilda, quand même.
Tu grandis encore.
Mais oui, j'en apprends encore à chaque mardi.
Bien sûr, elle nous arrose chaque deux semaines de ces merveilleux cocktails. Et c'est comme ça, voilà, et c'est comme ça qu'on grandit à l'émission Plaisir Gourmand depuis plus de 10 ans.
Mais oui.
À CIBL. Et on a encore une fois un beau menu cette semaine.
Complètement.
Chers auditeurs, auditrices, on va fêter des anniversaires cette semaine, Fanny.
Oui, complètement.
Vas-y. Ben, on a deux beaux anniversaires. Mm-hmm. Je vais commencer par le plus jeune, mais il n'est pas encore arrivé, notre invité. On va fêter le 40e anniversaire d'un restaurant, d'une institution de Montréal. On les oublie, les institutions, hein, à force de visiter les restos à la mode, de voir ce qui ouvre, ce qui ferme.
Mais il faut retourner aux sources. Et ça fait du bien.
Et 40 ans, c'est un exploit.
Ouais, surtout à l'heure actuelle. Donc
nous allons fêter le 40e anniversaire du restaurant Bonaparte.
Mon voisin.
Ton voisin, mais oui. Puisque à côté d'Atelier Saveur, hein, dans le vieux Montréal, le Bonaparte. Qui nous stimule de sa cuisine, j'allais dire française, vraiment classique depuis 40 ans.
Encore une fois, il faut revenir aux sources. Puis je pense que c'est la base qui inspire la nouvelle génération.
Alors, Martin Bédard, le directeur général, sera là en deuxième demi-heure. En deuxième demi-heure, on va aussi fêter un autre. Alors, celui-là, ce n'est pas un petit anniversaire parce que des centenaires, moi, j'en connais pas beaucoup. Des centenaires de Lanaudière en plus, hein, la belle région de Saint-Donat. Et si je vous dis Saint-Donat, évidemment, vous pensez à quoi ?
Eh bien, la cabane à sucre !
La tarte.
Et tout ce qui va avec le sucre !
La tarte au sucre, c'est le temps des tartes au sucre. Alors, Marie-Ève Saint-Amour, la propriétaire, nous fait le privilège...
Elle n'a pas 100 ans, je précise à tout le monde. C'est ma voisine aussi, pas la même.
Elle n'a pas l'âge de son entreprise, heureusement, mais elle nous a fait le privilège de venir en studio. Bonsoir. Merci beaucoup de venir fêter ce 100e anniversaire ici.
Grand plaisir d'être là.
Vraiment. Saint-Donat, alors là, on va pouvoir parler de traditions, de l'évolution de Saint-Donat à travers le temps, avec votre papa aussi qui est encore en activité avec vous.
Bien sûr. Oui.
Guillaume, c'est bien ça. Alors, on va pouvoir parler en deuxième demi-heure, mais je sais que Marie-Ève Saint-Amour aime beaucoup le fromage.
Absolument.
Hein? Bon. Elle n'aime pas juste le sucre, mais aussi le sel. Alors, ça va être cette première demi-heure. Fanny, moi, je t'ai décalé. D'habitude, on commence avec le cocktail. Aujourd'hui, je me suis dit, t'as un cocktail un peu...
Un peu plus after dinner. Donc, on va y aller plus, qui va aller avec la thématique de notre deuxième demi-heure, d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, on va laisser quelque chose de plus léger avec du fromage pour commencer.
Et oui,
parce que ça se prend bien aussi à l'apéro, ça.
Oui, on va commencer avec un plateau de fromage. Mmh. On va avoir aussi, juste pour terminer le menu, notre cher Bobby Grégoire, qui sera avec nous au téléphone aujourd'hui et qui va nous parler d'un enjeu assez intéressant qui est la controverse autour de la nomination de l'ordre des agronomes. Oui, tu as vu ça aussi.
Oui.
On va nous entretenir de ça aujourd'hui après l'affaire Louis Robert. On va revenir là-dessus. C'est Bobby.
Ces
sujets les plus sérieux et les plus intéressants concernant l'agriculture. Mais on va ouvrir cette émission. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous fêtez un anniversaire, vous
Anne
Oui, en fait, on pourrait fêter, on pourrait dire qu'on fête nos 1 an et demi.
Ah ben, c'est pas mal aussi.
Ah, c'est pas mal.
Moi, je vous souhaite de fêter le 100e, mais peut-être pas à votre descendance, on verra. Donc, Gauvreau, Sibylle.
Oui.
Anne et frère. Une fromagerie familiale, puisque vous le faites avec votre frère aussi,
oui.
Justement.
Principalement d'où le nom. Mon frère aîné, oui. Voilà.
Merci beaucoup d'être venu.
Merci.
Les fromagers, on les aime, nous, à l'émission. Hein. On reçoit régulièrement Yannick.
Oui,
que je connais. Et j'ai, ben voilà, j'ai vu que vous aviez été... Est-ce que c'est une formation même que vous avez pris avec lui après...
Ben, j'ai travaillé pour Yannick pendant 1 an et demi, la fin de semaine.
Notre
mon...
Yannick Achin, préféré.
Oui, pendant mon ancienne carrière. Voilà, je faisais ça à temps partiel.
Alors, c'est ça qui m'intéresse, puisque avant de parler fromage, vous nous avez concocté un beau plateau.
Mm-hmm.
Je lisais votre bio et je disais, ben, c'est une ingénieure, elle a fait l'ETS, elle était pour une grosse entreprise de câbleaux de distribution que je ne vais pas citer. Une des grosses, une des deux,
oui.
On va dire ça comme ça.
Ouais.
Mais alors, évidemment, je veux savoir comment on passe d'ingénieur à fromagère.
Oui, mais ça ne se fait pas en un jour, je peux vous le dire. Mais disons, oui. Donc, pendant 20 ans, j'ai été ingénieure électrique de formation, puis j'étais chargée de projet une douzaine d'années pour ce câbleau distributeur, donc. Et puis, ensuite, je suis allée plutôt vers les écoles, donc la commission scolaire de Montréal, où j'étais toujours chargée de projet de construction, donc que ce soit des écoles ou des salles de serveurs. Donc, pendant 20 ans, c'est ce que j'ai fait. Donc, un côté très organisé chez moi qui a été bien servi pendant toute cette carrière-là. Suivi de budget, d'échéancier, organisation et quand même un côté assez concret parce que oui, on est au bureau, on fait des plans, on révise tout ça, mais le côté concret d'aller sur le chantier, de voir l'œuvre prendre forme, ça, c'est vraiment ce que j'aimais le plus. Donc, on peut pas dire que j'étais malheureuse dans cette carrière-là d'ingénieur, mais il me manquait vraiment quelque chose. Au niveau sensoriel, je dirais.
Okay.
Au niveau culture, poésie, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie. Merci à mes parents pour ça.
Et vous avez des parents gourmands?
Oui, quand même. J'ai un père français.
Ah, donc, alors on arrive au fromage.
voilà.
Naturellement.
Voilà. Les fromages.
Est-ce qu'il y a du fromage tous les soirs avec votre papa?
Pas tous les soirs, mais plusieurs fois par semaine, quand je dirais. Puis bon, là, j'ai beaucoup de famille en France.
Okay.
Donc, les étés, quand j'étais plus jeune, c'était beaucoup en France que ça se passait.
Dans quel coin?
Dans la Sarthe.
Ah!
Voilà. Oui, ça semble...
Je ne sais pas, moi aussi, j'allume sur le poiré, tu vois, tout d'un coup. Hein, je pense à toi aussi.
Exactement.
Oui, OK. Mais les fromages, je les connais moins, là, mais
il y a
des bons fromages de coin.
Mais il y en a partout.
Il y en a partout,
France, de toute façon. Mais, donc, oui, ça a toujours fait partie de mon ADN, les fromages, les réunions familiales, ce fameux moment du fromage au repas.
Un incontournable?
Qui est incontournable et tellement agréable parce que c'est un moment de partage. C'est un moment où on sort la meilleure bouteille. C'est le moment où des fois les enfants sont tannés, fait qu'ils vont jouer. Fait qu'on parle de choses un peu plus sérieuses ou non. Ou en tout cas, c'est un moment privilégié vraiment. Puis donc, ça a toujours fait partie de ma vie, ça. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai toujours aimé le service à la clientèle. C'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement important, de faire vivre une expérience au client qui va faire en sorte qu'il va rapporter, en fait, chez lui ce moment-là.
Ce petit moment,
oui,
exact.
Ce petit moment-là à partager avec les siens, en petit ou en grand comité, peu importe, mais... donc, c'est ça. C'est un peu comme ça, donc, qu'est venue l'idée parce que j'avais pas... C'est ça. Il me manquait quelque chose dans ma carrière d'ingénieur.
Je comprends tellement. C'est le sensoriel.
Ouais.
Demain, c'est la journée mondiale du fromage,
absolument,
en plus. Donc, on en profite aujourd'hui. Il y a un axe qui est intéressant, je trouve, dans votre travail. Ce que vous faites chez Anne et Frères, c'est dans Villeray, on va le dire aussi. C'est vrai, parce qu'on n'a pas encore parlé de votre fromagerie.
Tout à fait.
Mais c'est aussi la création de plateaux de fromage. Puis c'est ce que vous êtes venu nous présenter aujourd'hui.
Oui.
Il y a tout un art autour de la création du plateau de fromage.
Oui, absolument. C'est quelque chose qu'on a développé, nous, à la fromagerie. Bon, c'est sûr que j'ai fait beaucoup de formations. J'ai fait des formations. Bon, j'ai travaillé ici au Québec à temps partiel en fromagerie pendant que j'étais ingénieure, mais je suis aussi allée me former à Toulouse, faire un stage en crèmerie-fromagerie, des cours sur les plateaux. Je suis toujours à l'affût de toute façon de tout ce qui se passe. Puis effectivement, les plateaux, c'est quelque chose... c'est un peu ça, en fait, ce dont je vous parlais, de ramener ça à la de ramener l'expérience à la maison.
Ouais.
Il y a tellement de choses qui peuvent accompagner les fromages, que ce soit des fruits, des fleurs.
Ouais.
Là, j'ai des pâtes de coin, j'ai des fruits séchés, des fruits frais, des herbes aussi. Donc, faut pas hésiter à
faire... Des fleurs même!
Absolument, ouais. Des fleurs comestibles.
C'est comme des tableaux, en fait. Hein? C'est des œuvres d'art, mais
absolument.
De rien.
Oui, on va mettre la photo plus tard sur la page Facebook de l'émission, parce qu'effectivement, c'est très joli. En plus, on dit bonsoir à notre invité qui va s'asseoir, bien sûr, Martin Bédard du restaurant Bonaparte va s'asseoir.
Bonsoir.
Je savais qu'il viendrait assez tôt pour profiter du plateau de fromage. Je le savais.
On reconnaît les gourmands.
Ouais, je vous invite à prendre le micro qui est juste au-dessus de vous, Martin. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Mais c'est vrai, c'est des vraies œuvres d'art.
Les beaux plateaux.
Ah, c'est magnifique, oui.
Merci.
On mange avec les yeux avant de manger,
oui.
avec notre bouche.
Exact. Ouais. Qu'est-ce qu'on a comme fromage aujourd'hui sur
Alors,
ce plateau?
Alors, on a quatre fromages. Donc, le premier, la pâte molle, c'est un pont blanc, un lait cru.
Pont blanc de?
De la fromagerie du Gré des Champs.
Ah, okay.
Sur Richelieu. Magnifique. Lait cru affiné moins de 60 jours au Québec, c'est un peu compliqué à faire, mais eux, ils le font et c'est de façon extraordinaire.
Ils sont un des rares encore à faire du lait cru au Québec.
Ben, y en a quand même, mais comme je vous dis, affiné moins de 60 jours,
c'est
une autre histoire. Donc ça, c'en est un. C'est magnifique, c'est délicat, c'est animal en même temps. Ensuite, le tuyau de poêle, qui est un fromage de chèvre fait par le Ruban Bleu à Mercier. Un cendré de chèvre qui va être crayeux, mais qui reste très fondant. Un brebis à la truffe blanche, donc fromage espagnol de type manchego.
Oui,
avec du veinage vraiment de truffe blanche qui est plus délicate.
Oh mon Dieu!
Le nom, tu l'as vendu!
Déjà le manchego.
Manchego, truffe blanche, allié.
C'est ça, on est là.
Je pense qu'on va devoir commencer à y goûter aussi.
Ben,
hein?
Oui, pourquoi pas, allez-y, hein, c'est fait pour ça. Puis finalement, le Samuel le Bleu, qui est un fromage de brebis également, fait par la fromagerie Nouvelle-France à Racine, dont la propriétaire a vraiment voulu essayer de faire comme un roquefort et c'est franchement réussi.
Ah, vrai? OK.
Au niveau... C'est peut-être un peu moins salé, friable qu'un roquefort, mais c'est franchement...
Plus crémeux, plus lisse crémeux, peut-être que le roquefort qui s'effrite.
Ça dépend de ce dernier, qu'on a besoin. Puis c'est franchement une réussite. Donc,
non, mais c'est vrai que le plateau, il y a des physalis, il y a du concombre enroulé, il y a des feuilles de sauge, il y a des fleurs, il y a des petites pousses, des fraises. Enfin, c'est
basilic.
Magnifique. C'est magnifique.
Ça, ce sont des plateaux que vous concoctez au magasin, à la demande.
Mm-hmm.
J'arrive, je dis, j'ai besoin d'un plateau. Là, normalement, ce genre de plateau, c'est pour combien de personnes?
Là, je pourrais vous dire que c'est à peu près... Disons, un repas, 4 personnes, je vous dirais.
Ouais. Non, c'est 2 avec Gilda et moi. Non, les calculs ne sont pas bons, là. Ça ne marche pas.
Voilà. Mais il y a différentes options, là, sur notre
Option
site,
gourmand.
Oui, c'est ça.
Gourmand breton.
Ouais. Puis il y a aussi des options. Est-ce que quelqu'un veut seulement des fromages québécois ou des fromages...
Qui vous adaptez, en fait, aux commandes. Fait du cas par cas. Parfait.
Le temps fait, j'ai besoin que j'ai envie que vous, quand même, que vous ayez le temps de nous parler un petit peu de ce que vous, de l'offre chez Anne et Frères, parce que vous ne vendez pas que du fromage.
Non, c'est principalement des fromages.
Bien sûr.
Donc, on a à peu près 200 variétés de fromages.
Quand même.
Dont la moitié, ce sont des fromages québécois. Le reste, c'est français, italien, espagnol.
Vous faites le tour du monde.
Voilà, tout à fait. Donc, l'offre nous ressemble vraiment, François et moi, dans le sens où on est métissés Europe, Québec, puis ça nous ressemble. Nous avons aussi beaucoup de...
Je vous vois la morceau, hein, parce que...
la truffe blanche.
Martin, oh oui!
Donc, tout ce qui est pour apéro aussi.
Oh là là.
On a ça. Et puis, des charcuteries à la coupe. Des vins et cidres du Québec. Et puis...
Vin du Québec, bien sûr, cidre du Québec.
Vin et cidre.
Vous invitez les gens à faire des beaux petits mariages, des accords.
Oui, on fait des dégustations régulièrement.
Bière, fromage.
Oui, justement, il y avait une dégustation de bière la fin de semaine dernière. Ça a très bien fonctionné. Et puis, on a la plus grande variété de fromage à raclette à Montréal.
Ah, c'est pas vrai. Alors, il y a encore un peu le temps, on en profite avant qu'il fasse vraiment chaud.
Oui, tout à fait. On a 25 variétés de fromage à raclette. Et puis, c'est tout tranché. Les fondus aussi, c'est fait à la minute. Là. C'est pas...
Oh my God.
C'est fraîchement...
Pas mal, hein, le manchego, hein?
Ah, le manchego, là, avec la truffe blanche, là.
Oui, c'est quelque chose, hein?
C'est du lourd.
Ouais, ça
vaut des points, ça.
c'est du solide.
Et puis, on aura aussi... on a une terrasse, donc, à Tenante, okay. À la boutique. Donc, cet été, la terrasse va ouvrir pour des
dégustations sur place.
Ben oui, pas seulement, mais on fait des paninis aussi. Okay. On va peut-être se lancer dans les planches apéro également, là, pour consommation sur place. Donc,
moi, j'ai génial. Manqué le début, mais voilà. vous êtes situé où?
On est sur Jarry, dans l'arrondissement de Villeray.
Ah oui.
On va donner l'adresse exacte, d'ailleurs, pour ceux et celles qui nous écoutent.
Oui, c'est le 738 Jarry Est.
Voilà, à l'angle de...
Châteaubriant.
Il y a un site web, évidemment.
Oui, annefrères.com.
Pour avoir toute la... On a quand même une bonne idée de l'offre sur votre site.
Oui, quand même, ça...
On peut commander les plateaux, justement, en avance sur ce site-là?
Absolument. Parfait. Mais 48 heures d'avance.
Mais rien.
Génial.
Ah ouais, c'est magnifique, c'est très beau.
Ah non, c'est très, très beau.
Mais je pense que ça vaut la visite, ça vaut le détour.
Oui.
Puisque...
C'est que, en fait, le service à la clientèle, c'est un peu notre marque de commerce aussi.
Ça.
Donc, c'est vraiment une expérience de rentrer dans la boutique, de se faire conseiller.
De choisir sur place.
Puis, si on veut un fromage qu'on ne l'a pas, mais on peut vous guider vers d'autres choses. On goûte, on parle ensemble, puis c'est un plaisir.
Oui, parce que composer un plateau soi-même, c'est difficile. Donc, vous êtes là pour aussi nous aider à le composer comme il faut.
Oui, selon
pour qu'il y ait un équilibre et selon, évidemment, ce qu'on aime.
Ben, bravo. Mmh.
Merci beaucoup. C'est déjà terminé. On a Bobby au bout du fil.
Bonjour, bonjour.
Salut Bobby. plaisir de te retrouver, mon cher. Écoute, on change un peu de sujet, là. Je sais que tu aimes beaucoup les fromages, toi aussi, hein?
Écoute, je l'ai toujours dit, le fromage, c'est de l'amour.
Ah, ouais. Je mange ta part ce soir, Bobby.
Bobby, on a un sujet un peu plus sérieux dont tu voulais nous entretenir aujourd'hui. L'Ordre des agronomes vient de nommer à sa tête un nouveau directeur général.
Tout à fait. Écoute, l'industrie agroalimentaire, c'est une industrie qui nous tient souvent sur la pointe des orteils pour une raison assez éloquente, c'est-à-dire que des fois, on a des belles avancées, des beaux projets qui sont mis de l'avant et d'autres fois, il y a des trucs qu'on apprend par les journalistes et c'est ce qu'on a appris en fait cette semaine par un article dans à Radio-Canada par Thomas Gerbet.
Évidemment.
Le nouveau directeur général qui a été nominé pour l'Ordre des agronomes du Québec est un ancien lobbyiste jusqu'à jeudi dernier en fait d'un regroupement de 50 entreprises qui fait la promotion des engrais de synthèse, des pesticides et qui est connu pour avoir mis de l'avant tout le côté qui serait, entre guillemets, non nocif des résidus de pesticides sur les aliments qu'on consomme régulièrement.
Il n'y avait pas pourtant une histoire là, de l'affaire Louis Robert qui devait justement changer les choses?
Bien, c'est ça. Hein, on se souvient que Louis Robert était un agronome qui était au MAPAC, qui a été congédié parce qu'il avait fait des recommandations qui allaient contre les intérêts de l'industrie des pesticides à l'époque. Et il a été rembauché, il y a eu un blâme au niveau du ministère, évidemment. Mais au-delà de ça, il était supposé avoir un dépôt de projet de loi pour réformer le code de la loi sur les agronomes du Québec, en fait, parce que ça remonte à plus de 50 ans, ce cadre de loi-là. Ça fait quand même un bail que ça a besoin d'être mis à jour. Et ben, sur ce point-là, on attend toujours des nouvelles. Et je ne sais pas si tu te souviens, Gilda, ou les autres en studio, mais en septembre dernier, le même journaliste nous avait fait un beau topo sur ce qu'on appelait le Tiger Team. Mm-hmm. Que ça vous dit quelque chose?
Oui.
Oui.
Ouais. Ben pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, qui sont en onde en ce moment, le Tiger Team, en fait, c'est un travail qui a été fait par des membres de l'industrie qui a dicté littéralement aux fonctionnaires fédéraux à Santé Canada et d'autres ministères au niveau des réglementations de l'agriculture. C'est quoi les normes qu'on devrait tolérer sur les limites de pesticides de surface autorisées qui serait acceptable là, en distribution au niveau de consommation humaine. Et ça faisait suite finalement à d'autres efforts de l'industrie de faire augmenter ces seuils-là qui seraient considérés comme non toxiques, entre guillemets, acceptables pour que la population puisse les ingérer. Donc, ça vient un peu de tout ça. Et le cas en ce moment aujourd'hui, à l'époque, il y avait eu quand même un peu de levée de bouclier. Il y a plusieurs organisations qui se sont regroupées pour dénoncer tout ça. Mais aujourd'hui, l'Ordre des agronomes du Québec, qui a été longtemps critiqué pour le fait que la majorité de ces agronomes sont à la fois des vendeurs de pesticides et d'engrais de synthèse, a toujours pas de cadre, au-delà de leur code éthique, qui est quand même bien, là, mais qui n'est pas tout à fait appliqué, a toujours pas des pratiques dans le recrutement, finalement, des gens dans des postes de direction qui vont se dégager de cette image-là, là, c'est vraiment une question d'image, là, dans le principe, où c'est encore des gens de l'agrochimie qui dirigent finalement ces organisations-là, ces organes-là, qui sont supposés défendre l'intérêt du public et la santé du public. Fait que c'est un peu ça, l'eau chaude dans laquelle est l'ordre des agronomes en ce moment.
Okay. On a vu aussi, d'ailleurs, que Vigilance OGM a réagi, hein?
Effectivement. Et ça n'a pas pris grand temps. En fait, hier soir, parce que l'article est sorti hier matin, vers 4 heures du matin, hier soir, Vigilance OGM, avec un collectif de d'autres organisations, a lancé une pétition pour exiger d'annuler cette nomination-là, mais aussi pour assurer que toute future nomination soit faite en fonction de gens qui n'ont pas pratiqué des fonctions de lobbyiste. Okay. Lobbyiste, si on se rappelle un peu, ben, c'est des gens qui sont payés, qui sont embauchés par des entreprises pour influencer les réglementations, des décisions dans des consultations publiques ou des lois à l'avantage de leurs clients. Dans ce cas-ci, M. Farran est un lobbyiste notoire pour justement un regroupement d'entreprises agrochimiques. Donc, c'est pour ça que ça crée un peu une méfiance puis que les gens veulent avoir un peu plus d'impression de transparence. C'est le mandat, en bout de ligne, là, de l'Ordre des agronomes, c'est littéralement un mandat de protection du public et aussi vérifier la compétence des membres de l'Ordre, surveiller l'exercice de la profession, puis le but, c'est de rehausser la compétence professionnelle. Sauf que là, il y a une méga apparence de conflit d'intérêts, surtout que M. Farran, jusqu'à, en tout cas, les informations qui étaient disponibles hier et encore ce matin, quand je suis allé vérifier sur le site du registre des lobbyistes au niveau du gouvernement du Québec, est encore enregistré jusqu'à novembre 2024 comme un lobbyiste qui essayait d'influencer le ministère dans les séances de travail pour révision de loi au niveau de la compétitivité du secteur agricole, mais surtout pour le plan de l'agriculture durable jusqu'à 2030. Donc, tout ça, ça laisse poser vraiment des questions, je te dirais, de ce côté-là.
Pour toi, Bobby, là, et pour les gens qui nous écoutent, et toi personnellement, c'est quoi ton inquiétude par rapport à ça?
Bien, en fait, en conclusion. Je comprends que... Oui, conclusion très rapide. Le rôle d'un directeur général, c'est plus un ordre administratif et tout. Sauf que quand la majorité de tes employés vendent et ont un intérêt pécunier à vendre des produits de l'agro-industrie, que ce soit des pesticides, des engrais et autres, et que les postes de direction sont influencés nécessairement ou ont été récemment encore influencés à la solde de ces industries-là, comment, comme public, on peut s'assurer que les décisions qui vont être prises vont prendre en compte l'ensemble des critères et pour la sécurité publique? Il y a aucune crédibilité, en fait. Selon moi, c'est une balle dans le pied qu'ils se sont tirés avec ça, pour être franc. Puis,
mais t'es surpris, mais dans ma tante, Bobby, t'es pas surpris quand même. Là, c'est pas une balle. Non. Ils savaient très bien qu'ils se tiraient. Peut-être qu'il y aurait une réaction, non?
Ben, moi, je suis pas surpris, personnellement, parce qu'il faut toujours être vigilant avec ces ordres-là qui servent à nous défendre en bout de ligne, mais il y a souvent du compagnonnage qui se fait, il y a du népotisme aussi qui existe. Je dis pas que c'est ça dans ce cas-ci, mais c'est comme, avec toutes les pressions publiques, il ne faut pas relâcher la vigilance parce que finalement, au bout de ligne, on se rend compte que c'est toujours la même histoire qui arrive. Et si on voulait avoir une impression où ces scandales-là ont réussi à faire changer les choses, ben malheureusement, on n'y croit pas. Là. On est au-delà en ce moment, même par exemple, près de 1400 signatures en moins de 24 heures sur la fameuse pétition qui a été lancée par Vigilance OGM. Puis il y a plusieurs organismes de santé publique, il y a des gens qui interviennent, des professionnels. C'est que c'est vraiment quelque chose qui est dénoncé en ce moment. Puis je pense pas que l'Ordre des agronomes, même si, personnellement, on connaît pas M. Farran, mais c'est pas crédible comme nomination dans la logique de ce que la population en général exige. Puis là, c'est pas être activiste que dire ça, mais pour la confiance dans les institutions qui sont supposées nous protéger, ça regarde vraiment très mal.
Merci beaucoup, Bobby.
Très intéressant.
Toujours très intéressant, ouais. Fanny.
Bah, complètement, c'est super intéressant. Regarde, toutes les chroniques de Bobby sont toujours pertinentes et intéressantes. Donc,
voilà, ces choses dites. Merci beaucoup, Bobby. On a hâte de te retrouver en studio aussi. J'espère à bientôt.
En avril, ça devrait être possible. Donc,
good. Alors, on se retrouve bientôt. Merci, Bobby, et bonne fin de soirée.
Bisous, Bobby.
Merci à tout le monde.
On va passer au cocktail, puisque, en fait, dans l'habitude, on ouvre l'émission avec. Mais là...
Oui.
Mais là, comme on allait ensuite se sucrer le bec avec Saint-Donat, je me suis dit, bon...
Avant le fromage, on s'est dit, bon, on va changer l'ordre des choses.
Ça ne nous empêchera pas de goûter à du fromage parce que...
Ben non, parce qu'en plus, ça coupe le pain.
Parce qu'elle est en train de couper du pain en ce moment, puis on va devoir goûter.
On a hâte à la pause musicale pour pouvoir manger.
Ça s'en vient dans... Oui. En fait, ça vient dans 5 minutes. Alors,
c'est ça, donc je vais gratter 3 minutes de ma chronique. Voilà, comme à chaque fois, chaque semaine, c'est la même.
Quand tu commences pas, c'est ça qui t'arrive.
C'est ça.
Vas-y.
Donc là, mon cocktail de Pâques, parce que j'avais suggéré de faire un cocktail, bien sûr, parce que ce week-end, c'est Pâques. Donc, ouais. Qui dit Pâques, dit chocolat. Sophie, qui n'est pas là. Sophie, désolée. Parce que je sais que Sophie est une friande de chocolat. Je me suis dit que j'allais proposer quelque chose de différent. Comme je dis, ça fait plusieurs années que je fais les chroniques. Et là, je me suis dit, comment on peut renouveler un cocktail de Pâques? Et bien là, je vais proposer un cocktail de Pâques, mais en shooter. Donc là, il y a Gilda qui regarde mes petites cocottes.
Ah non,
donc,
j'ai pris... Il y a des petites cocottes, en chocolat.
Donc, pour faire mon cocktail, déjà, on va prendre nos petites cocottes et puis on va prendre une paille en métal, comme ceci.
À la sortie du chalumeau.
On prend le chalumeau et en fait, au-dessus des cocottes, on va venir faire un petit orifice pour que je puisse ensuite verser mon cocktail. Donc en fait, ma cocotte en chocolat, vous l'aurez compris, c'est ma verrerie en fait.
Ben oui.
Ben oui, parce qu'il faut apporter un petit peu d'originalité, même si c'est Pâques.
Ça, des plus originales.
Ben écoute, j'ai voulu vraiment me relever le défi. Donc là, Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Je vais venir mettre, donc on parlait de tout ce qui est érable et le sucre. Donc là, j'ai pris du beurre d'érable que je suis venue faire fondre et dans lequel j'ai mis du sirop de chocolat. Chez ma voisine, donc, qui n'a pas 100 ans, mais qui me regarde de même. Hein, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, la voisine? Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est sûr que là,
intriguée, mais elle a envie d'écouter.
Parce que c'est qui dit Pâques dit chocolat, dit le gigot de 7 heures. Donc, le gigot en 7 heures en cocktail, c'est un petit peu compliqué. Donc, j'ai dit, je vais garder le chocolat, ma foi. Donc, j'ai pris du sirop d'érable que je suis venue faire vraiment fondre et dans lequel j'ai mis du sirop de chocolat.
Ouais.
Donc, c'est vraiment un mix des deux. Donc là, maintenant, quitte à rester dans l'érable, j'ai pris la liqueur d'érable de la distillerie Norrois. Parce que c'est un super de beau produit.
Très bon choix, bien sûr.
Et que je ne voulais pas non plus quelque chose de trop crémeux ou trop d'épais dans mon cocktail. Parce que même si c'est un cocktail digestif, je vais quand même garder une certaine légèreté dans mon drink. Parce que comme je vous disais, c'est vraiment un cocktail plus after dinner, donc en fin de repas, qu'on va prendre ce genre de shooter. Donc là, je vais venir... histoire de donner un petit peu de texture, avec du nog à l'avoine.
Mais non, mais ça...
Mais
je...
oui, bah tu connais le nog, tu sais, pour Noël, pour le temps des fêtes. Mais oui, et là, c'est à l'avoine, fait que ça, c'est super bon. Ça va apporter un côté...
Donc, c'est comme le eggnog, mais c'est de l'avoine au lieu du lait.
Exact.
Les œufs, le sucre...
Plus santé, quoi.
Mais voilà, puis je me suis... Non, mais... Écoute, tant qu'à faire, on se donne une petite chance, Martin, écoute.
Oui, c'est ça, bien, c'est ça.
Donc là, je répète, j'ai venu prendre mes petites cocottes en chocolat, j'ai pris une petite paille en fer, je suis venu le brûler avec le chalumeau pour faire un petit trou à l'intérieur de ma cocotte qui va être là où je vais servir mon cocktail. Donc là, j'ai juste à mettre dans mon shaker, avec un peu de glaçon, je vais faire un grand coup de shake, avec le sourire, comme d'habitude.
Et j'en profite pour dire qu'il n'y a pas d'œuf dans le nog.
Non, parce qu'il est à l'avoine. Hop.
En fait, il est vegan, ce truc. Tiens, voilà.
Et alors, le truc le plus difficile, c'est maintenant, ça va être
sans œufs, sans produits laitiers, de
verser dans la cocotte sans en mettre partout. Donc, vous comprendrez
alors
que
ça, je ne sais pas comment tu vas faire pour verser ton cocktail. Non, mais elle y arrive, en plus, c'est sans entonnoir.
Non, mais comment il essaye de me mettre le truc à l'envers? Regarde ça.
Je vais être obligé de prendre une photo pendant que tu fais ça parce qu'il fallait y aller. Tu l'offres tout de suite. Non, tu l'offres tout de suite à Marie-Ève.
Allons-y.
Parce que Marie-Ève, elle va y goûter. Je suis sûr que Anne aussi.
Avec plaisir.
Martin.
Je trouvais que c'était original. Oui. C'est pour un cocktail de Pâques. Souvent, on va partir sur, quelque chose de fruité, de...
On a même prévu pour notre mouette.
Que du chocolat, mais là, c'est pas que du chocolat.
La mouette, c'est Sébastien, la mise en onde. Je sais qu'il me regarde en me disant, quand est-ce que je goûte?
C'est bon, Seb, ça va arriver. Mais là, je trouvais que vous voulez impressionner vos amis à Pâques. Eh bien, je trouvais que la présentation avec la petite cocotte, c'est très sexy.
On fait de la radio, mais non, bon, c'est ces petites cocottes en chocolat. On a planté la paille dedans, on a inséré le cocktail à l'intérieur. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Là, j'ai besoin de l'avis de mes invités.
C'est excellent. Moi, ma mère, elle me donnait toujours à Pâques des petites poules en chocolat, des cocottes. Et puis, je trouve que maintenant, ça me donne le goût d'en prendre davantage.
Mais non, mais tu sais, comme on disait, ben, comme le plateau, tu sais, on regarde, on le voit, c'est beau. On le mange à le regarder. Mais là, je me suis dit, je vais faire quelque chose d'original pour la présentation. Puis plutôt d'avoir un gros cocktail, parce qu'on se comprend que les repas de Pâques, généralement, ça dure 30 ans. Tu commences à 11h, tu finis à 5h, puis tu es déjà content de finir à 5h. Mais là, je me suis dit, un shooter qu'on préparait, tu sais, avec un cocktail comme je l'ai fait dans mon shaker. On a rempli déjà 4 cocottes, 5 cocottes. Seb, la tienne arrive. Mais au moins, je trouvais la manière un peu originale de sublimer puis de mettre une touche d'originalité dans votre repas de Pâques ce week-end.
C'est réussi, c'est délicieux.
Oui. Alors,
et on reste dans les rames, on reste dans la thématique.
J'en perds, voilà. J'en perds mon micro, Marie-Ève.
C'est très bon.
Hein, mais on s'imagine, hein, avec une petite pointe de tarte au sucre.
Oui.
Ça serait pas mal.
Un beau petit pairing.
Même avec certains fromages, d'ailleurs, non, des fois, le sucre, le sucre et le fromage un peu salé.
Il y a des fromages qui vont très bien avec certains chocolats, les vieux cheddar.
Oui,
c'est vrai.
Exact. Gouda, donc oui, pourquoi pas.
Ben écoutez, j'ai essayé de mettre des cocottes dans votre repas de Pâques.
Il y en a, je pense que oui, il y en a même qui dehors nous regardent et qui aimeraient bien goûter ces délices. Merci Fanny.
Mais ça me fait plaisir.
La recette.
Ben, elle va se retrouver demain sur mon blog L'Envers du Bar et sur la page Facebook de Plaisir Gourmand.
C'est l'heure de la pause ici à Plaisir Gourmand à l'antenne de CIBL 101,5. On vous revient dans quelques minutes. Et là, on va tomber dans des sucres. avec le centième anniversaire de Saint-Donat, la chronique de Marie-Lou sur les cabanes à sucre gastronomiques.
Complètement.
Et on
après,
termine
nous
avec
avons
l'anniversaire.
Notre
Martin. Oui, de Bonaparte. À tout de suite.
CIBL 101.5, Montréal.
Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3 500 $ en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du Bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
Le 7 avril à 19h au Centre Saint-Pierre, situé au 1212 rue Panay, Montréal, les publications du Graal offriront une lecture publique ayant pour thème « La réincarnation, pourquoi vivons-nous plusieurs vies ?» Des textes tirés de l'œuvre d'Abdrouchine dans la lumière de la vérité « Message du Graal » seront lus lors de cette rencontre. Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, composez le 1-866-428-7001, 1-866-428-7001.
Ici Yves Chamard. J'aurai le plaisir de venir partager avec vous une heure semaine la merveilleuse histoire de Québec en musique. Chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL 101.5 Montréal.
Bonjour, ici Boris Chassaigne. Pour découvrir l'actualité locale d'un bout à l'autre du pays, écoutez l'émission Point de vue. On vous présente des reportages, portraits et entrevues réalisés par nos journalistes postés dans des provinces et territoires canadiens, sociétés, arts, culture, environnement, affaires publiques, l'information locale destinée à un auditoire national. Les jeudis, 10h sur CIBL FM.
CIBL 101.5, Montréal.
Allez-y, servez-vous. Enfin, non, je suis désolé, vous m'écoutez, mais non, vous pouvez vous servir le beau plateau de fromage que nous a offert aujourd'hui Anne Govreau et Sybille de Anne et Frères. On en parlait en première demi-heure. Hein, c'est pas mal, Martin?
C'est délicieux, le fromage, le chocolat, l'apéro. Moi, je reviens chaque semaine.
Faut nous trouver une idée de chronique, alors.
Hebdo.
OK? Parfait, ça. Je vous disais en début d'émission qu'on fêtait les anniversaires. Il se régale aussi, mon moniteur en ondes, en ce moment. Là, je le vois en train de boire son petit cocktail de Fanny.
Ben oui.
Je vous disais en début d'émission, donc on fêtait les anniversaires, le 40e anniversaire du Bonaparte. Félicitations quand même.
Merci.
Quand même, 40 ans, c'est quand même assez énorme.
40 ans pour un resto, c'est impressionnant, il faut le dire, ils ne sont pas si nombreux que ça.
Non.
Et alors aussi, une boulangerie qui fête, est-ce qu'on peut dire boulangerie-pâtisserie,
Marie-Ève? On peut dire boulangerie-pâtisserie.
Oui, hein, c'est les deux, hein,
on fait des desserts.
Oui, c'est exactement. Alors là, on parle de 1924.
Depuis 1924, il y a une boulangerie en continu à Saint-Donat.
Incroyable.
Ouais.
Et qui avait commencé en 1924?
C'est Homer Legault. 1924. Après ça, il y a eu les Charbonneaux. Après ça...
Il y a eu les beaux séjours.
Les beaux séjours.
Alors, j'ai appris pendant la pause, mesdames, messieurs, que notre ami Martin Bédard du Bonaparte a un lien avec Marie-Ève d'Amour de Saint-Donat.
Alors, le six degrees separation, là, c'est ici que ça s'applique. Parce que,
en résumé?
Ben, un des oncles à ma mère, était propriétaire de Saint-Donat, la boulangerie Saint-Donat.
Alors, on parle de quelle décennie?
Écoute, ma mère est dans les 60, ma mère a 75, donc lui était son oncle. On peut remonter à 1968.
Tu sais, quand on dit que le Québec est tricoté serré?
Oui, mais voilà, on a la preuve.
C'est pas faux. Marie-Ève Saint-Amour, donc propriétaire de la boulangerie Saint-Donat, avec votre papa quand même. Il est encore là, il est encore actif.
C'est encore mon mentor. Guillaume. Mais il est plus propriétaire. J'ai racheté ses parts en 2017.
C'est lui qui a racheté la boulangerie en 89.
Oui, de M. Beauséjour. Okay.
Voilà, donc on écrit l'histoire. Oui. Aujourd'hui, c'est incroyable, Saint-Donat, on vous trouve partout. Vous êtes dans les épiceries, vous êtes...
On couvre tout le Québec dans les supermarchés, les grandes surfaces.
Qu'est-ce qui a contribué au succès comme ça de cette petite boulangerie de Saint-Donat, là?
En fait, la pérennité aussi.
Oui, et la pérennité, bien sûr.
Ben, ce qu'on fait, c'est des tartes comme on les ferait à la maison.
Oui.
Mais en plus grande quantité, avec un petit peu plus de moyens. Mais on a gardé les mêmes recettes, on les a adaptées pour être capable d'en faire 200, 300, 400 par recette. Mais
quand même.
Garder les mêmes ingrédients, crème 35, cassonade, la simplicité.
Okay, la base. OK.
c'est ça qui vous maintient. Est-ce que c'est ça que les gens vous réclament aussi, hein? Surtout de ne pas changer les recettes.
Ben oui, absolument. Puis c'est notre ADN. On ne serait pas capable de faire autrement.
Ah ouais?
Oui.
Donc, la recette a été créée par qui, originalement?
Ben, en fait,
pour le coup, il y en a plusieurs. On a la tarte au sucre, on a la tarte pacane sucre.
Oui, mais on en a... OK, je vais vous raconter l'histoire du tourbillon au sucre à la crème.
Ah ben oui!
C'est rien que le nom. Tourbillon au sucre à la crème.
Ouais.
Non, mais déjà, ça fait...
Et sirop d'érable.
En plus...
C'est santé.
Ben oui, totalement.
Bien sûr. Oui, parce que t'as le bonheur. Tu manges le bonheur.
Une excellente source de bonheur.
Merci, Martin.
C'est une demande client. C'est un client qui avait demandé à mon père de créer des grands-pères dans le sirop pour le temps des érables. Il a travaillé avec notre pâtissier de l'époque pour essayer de recréer des grands-pères dans le sirop. Mais bon, c'est des grands-pères dans le sirop, c'est de la pâte qui est cuite dans du sirop d'érable. Fait que ça se garde pas vraiment. Donc, il est arrivé avec la baisse de pâte à tarte, le sirop à l'érable, puis les pâtes de sœur qu'on dépose. Fait qu'il a créé les tourbillons. Puis, quand notre directeur des ventes, à l'époque, est allé présenter ce produit-là, l'acheteuse... Elle a dit « Ah oui, c'est intéressant. » Puis là, elle avait pris un morceau. Puis après ça, elle n'arrêtait pas d'en reprendre la cuillerée. Fait que c'est comme ça que c'est né.
Donc, c'est une création. Originale.
Oui.
Là, on parle d'innovation presque.
Ben oui.
Vous avez déjà goûté, vous, ici, autour de la table, là, des tourbillons au sucre?
Moi, jamais, mais c'est pas l'envie qui part.
Alors, je pense qu'on va ouvrir la boîte. Tiens, on va l'ouvrir parce que je sens que Khan a envie de nous donner son avis là-dessus.
Absolument.
Alors, mais justement, parce que vous faites encore dans les, j'allais dire, dans les ingrédients simples. Je n'ai pas regardé exactement la liste, mais crème 35, sucre, farine, œufs, etc.
Comment ce qu'on trouve dans nos garde-manger.
Exact. Avec l'inflation, comment on s'en sort quand on est Saint-Donat?
Mais on augmente nos prix.
Est-ce que vous faites de la réduflation?
Non, on n'a pas fait ça. Je ne dirais pas qu'on ne l'a pas étudié, mais on s'est dit non, ce n'est pas la bonne option. Ce n'est pas la bonne option pour nous.
Les gens sont vigilants. Et vous avez une clientèle très fidèle, j'imagine.
Oui. Ah oui.
Est-ce que vous avez beaucoup de commentaires?
Oui, beaucoup de commentaires. Mon commentaire préféré, c'est quand les gens disent... Ah, votre tarte au sucre est aussi bonne que celle que ma mère faisait.
Oh my God!
C'est ma paye ultime.
Ça veut tout dire. Hein?
Ah oui, vraiment.
Puis je pense que la continuité, puis tu sais, le fait que ça goûte tout le temps la même chose, la constance, c'est comme énorme quand on fait ce genre de produit, quoi.
Oui, absolument. La rigueur dans le suivi des recettes... On est très pointus.
Les recettes, est-ce qu'elles sont cachées, secrètes, dans un coffre quelconque?
Ah oui, sont cachées.
C'est vrai.
Mais ça reste quand même simple. Tarte au sucre, c'est de la crème 35, de la cassonade.
Il y a un petit truc qui fait que, voilà, c'est intéressant.
C'est l'amour.
Mais vous avez quand même de la compétition.
Oui.
C'est de la bataille, non? Mais comment on fait pour rester comme ça...
Bien, on est là, on est présent, on distribue nos produits, on répond à la demande. Je pense que c'est ça aussi le secret, là, le fait d'être là sur les tablettes, que les gens nous trouvent, nous voient. Ça fait partie du succès aussi.
Peut-être aussi la diversité, justement, qui arrive au fur et à mesure. Il n'y a pas Cannes, il y a... d'avoir apporté un peu de diversité, puis un petit vent nouveau, là, tu sais, un petit coup de frais.
Mais oui, il y a toujours des nouveautés. Là, on est dans le temps des érables, jusqu'à l'agneau de 7 heures.
Ouais.
Mais après ça, ben, on va commencer avec les petits fruits, les tartes aux fruits qui arrivent, en automne, plus les tartes aux pommes, au stade aux pommes, tout ça. Et en hiver, on revient avec les tartes aux pacanes à l'ancienne.
Un grand classique.
Anne vient de goûter au tourbillon. Mm-hmm. Alors?
Mm-hmm. C'est vraiment cochon. C'est super bon, vraiment. Là. Wow.
Quel genre d'autres commentaires peut-on faire de ce genre de dessert?
Ben, hein? C'est ça. Ça se mange sans faim, mais ben, j'imagine que si je mangeais tout le tourbillon, j'aurais peut-être mal au...
J'y allais avec modération, c'est un bon conseil.
Mais non, c'est... délicieux.
Puis là, en plus, on ne l'a pas fait réchauffer. Là, mais...
Ah oui, parce que...
Ça sort du four légèrement. Ouh, aïe, aïe.
Oui, parce que... Alors, c'est vrai, parce que le sucre... Je vois les tartes... Je vais voir les tartes à l'ancienne. Toutes ces tartes-là méritent d'être...
Réchauffées légèrement.
Réchauffées légèrement.
Oui, oui, oui.
Ça fait vraiment une différence.
5-10 minutes au four, là, ça fait la différence.
5 minutes au four, quoi? 350, là, juste pour l'attiédir
un petit peu? Oui, jusqu'à ce que ça sente bon dans la maison. Là, on la sort. On déguste.
D'accord.
Il nous faut un four la prochaine fois.
Oui, c'est ça.
Il faut qu'on demande d'avoir un four.
Pour optimiser l'expérience.
Qu'est-ce qu'on a comme nouveauté chez vous? Là, je voyais le brownie, ça, c'est nouveau, pas nouveau?
C'est assez nouveau.
Oui.
C'est assez nouveau, oui. On a sorti aussi pour le temps des érables. Là. Il n'en restait plus. Mais une tarte au sucre à l'ancienne, à l'érable.
À l'ancienne, ça veut dire quoi? Par rapport à pas à l'ancienne?
Écoute, nous, on dit... Ben, nous, notre tarte au sucre traditionnelle, c'est avec deux croûtes.
Double croûte, dessus-dessous, alors que là, ouverte.
Ouverte. Okay. Pour nous, c'est à l'ancienne.
Mm-hmm. Voilà, et visiblement caramélisée sur le dessus.
Oui. On peut même la recaraméliser, faire un peu comme une crème brûlée. On rajoute du sucre.
C'est double
cochon. Moi, j'aime bien manger ça avec la crème par-dessus.
Est-ce qu'on parle de crème fouettée, de crème liquide?
35%.
La 35 liquide.
Oui,
liquide.
Oui. Tant qu'à faire.
Oui. Oh my God.
Une boule de crème à la vanille, non? De crème glacée à la vanille?
Oui. Moi, c'est mon dada, la crème glacée à vanille, mais la crème fraîche.
Donc là tu prends 3 kilos juste à regarder le truc, quoi, je veux dire.
Oui, c'est ça.
Mais c'est pas grave, on est content d'être gourmand pareil.
Oui.
C'est du réconfort.
Mais voilà.
C'est une belle histoire, la boulangerie Saint-Donat, qui fait ses 100 ans cette
quand
année,
même.
Vraiment.
Faut le noter.
Vous êtes toujours situé à Saint-Donat.
À Saint-Donat.
Ben oui, fidèle à votre région.
Oui, chemin des ancêtres. L'usine est bâtie sur le caveau à patates familiales.
On peut aller faire un tour.
Le caveau à patates familiales.
On va pouvoir cet été, comme on fête notre centième, on va organiser des visites guidées.
Génial.
Jeudi après-midi, sous réservation. Fait qu'on va annoncer ça un petit peu plus tard ce printemps.
Mais
une petite primeur, on aime ça!
Donc, aller faire un petit tour dans l'Anaudière. C'est une très belle région, l'Anaudière, de toute façon.
Ouais.
L'été, c'est pour ça. C'est un peu aussi le succès de Saint-Donat, c'est parce que c'est une région touristique.
Ben oui, on est bien. Il y a de beaux lacs, des montagnes, plein de sentiers de randonnée. Puis aussi, la municipalité de Saint-Donat fête son 150e anniversaire cette année. Fait qu'il va y avoir plein d'activités.
Donc, vous faites... Ah ben voilà. Donc,
c'est un jumelé.
Double occasion.
Il y a le 150 et le 100.
Double occasion d'aller passer plus tard cette année un petit tour, faire un petit tour à Saint-Donat dans l'Anaudière. Merci beaucoup d'être venu.
Bravo.
On va
100 ans, bravo là.
Oui, vraiment. On aime les centenaires. Sucré.
Merci.
Oui, surtout sucré. On a une petite chronique à vous proposer justement de notre collaboratrice Marie-Lou Blin.
Oui.
Qui nous a préparé une petite chronique, alors justement, sur les cabanes à sucre gastronomiques, c'est la saison.
Thématique.
On va l'écouter.
Les cabanes à sucre sont un incontournable du printemps, alors que le sirop d'érable coule à flot. Que vous soyez en famille, entre amis ou en amoureux, il est toujours amusant de sortir de la ville pour goûter à nos classiques québécois. Toutefois, qui dit classique dit possibilité de les revisiter. Et dans ce segment, je vais vous présenter différentes cabanes à sucre dites gastronomiques à travers la province pour les plus chics d'entre vous. Les affamés du web avec Marie-Lou Blin. Une des cabanes à sucre qui ressort en premier sur Google, c'est la cabane au pied de cochon à Mirabel dans les Laurentides. Elle est populaire, entre autres, car son chef n'est nul autre que Martin Picard, l'animateur de l'émission « Un chef à la cabane » qui a été diffusée pendant plus de 10 ans à Télé-Québec. L'émission consistait à suivre Martin et son équipe de chefs alors qu'ils testaient de nouvelles façons de cuisiner le sirop d'érable. Le fruit de leur recherche est donc disponible à sa cabane à sucre au pied de cochon, où on peut y déguster de la soupe à l'avoine avec bacon glacé, du tofu frit et du foie gras jusqu'à un renversé à l'ananas au sirop d'érable avec coulis de canneberge et crème à l'érable. Il est conseillé de réserver sa place plus d'un mois à l'avance, mais sachez qu'il est également possible de commander une boîte de prêt à manger pour déguster un repas à partir de chez soi. Si vous souhaitez étendre votre passage à Mirabel, sachez que la cabane au pied de cochon a une voisine, et c'est la cabane d'à côté, souvent vue comme la petite sœur de la première érablière. Toutefois, ne vous méprenez pas, le menu n'est pas du tout le même. La cabane d'à côté a pour mission d'utiliser uniquement des produits fermiers locaux et apprête les plats directement devant les clients à l'aide d'un four à bois. Le menu est fixe et à partager, et nous pouvons y retrouver les célèbres soupes aux pois, tourtières, ragoûts de boulettes et de pâtes de cochon traditionnelles. Le tout est accompagné d'une magnifique vue sur le verger et ses jardins. Faisons maintenant un saut en Montérégie, à la cabane du coureur à Saint-Marc-sur-Richelieu. Vous rêvez d'une cabane à sucre épicurienne qui sort des rangs et mélange de nouvelles saveurs avec finesse? Alors cet endroit est le vôtre! Le menu revisite les classiques en les mélangeant à de la gastronomie de partout. Et quand je dis partout, je veux dire partout. Leurs omelettes sont même servies sous forme de maquis japonais. Leur menu comporte entre autres des betteraves marinées au gin sapin et des crêpes frites dans le gras de canard. Il est également intéressant de noter que l'équipe derrière la cabane du coureur est la même que celle derrière le bistrot réputé Le Coureur des Bois à Belle-Oeil. Un repas coûte 65$ par adulte et un menu végétarien est également disponible lors de la réservation. Que dire de plus que... courez vers la cabane du coureur! Mettons-nous en route cette fois-ci vers la capitale nationale pour goûter au menu du restaurant La Cabane de la ferme La Cité Agricole. Situé à Saint-Augustin-de-Desmaures, le restaurant propose un souper au son de rigodon et à l'ambiance festive. En arrivant, vous avez droit à un cocktail d'accueil composé de bulles et de sirop d'argousier et d'érable. Le menu propose des plats individuels et des plats à partager à base de viande éthique de leur petit élevage en liberté. Ce qui distingue également le menu, c'est son utilisation du whisky québécois Sortilège pour aromatiser leur jambon braisé, ainsi que son utilisation de la bière noire de la microbrasserie québécoise La Souche pour agrémenter leur fèves au lard. Le menu est disponible jusqu'au 28 avril, ce qui vous laissera le temps d'en profiter lors de votre prochain voyage à Québec. Et voilà, c'était tout pour les cabanes à sucre gastronomiques à découvrir, et j'espère que l'une d'entre elles vous aura donné l'envie d'une petite escapade en région. N'hésitez pas à consulter les sites internet de chacun des restaurants pour être au courant de leur date d'ouverture, qui peuvent parfois être saisonnières.
Merci Marie-Lou, merci pour ces belles recommandations.
Oui.
On aime ça, hein? Le temps des sucres, ça
puis fait... ça se prend toujours bien. Ben ça, oui. Ça vient chaque année de toute manière, puis mais il y a toujours des innovations d'année en année.
Ouais.
Toujours un petit truc nouveau qui vient nous chercher et puis qu'on aime ça visiter les cabanes à sucre.
Mmh. Oui. Est-ce que vous faites un temps des sucres au Bonaparte?
On ne veut pas de temps de sucre, non. Non, mais c'est
non, mais j'ai vu que dans les desserts il y a assez de sucre, c'est bon.
Oui.
Hein, Martin?
On y trouve son goût. Oui.
Notre dernière invitée de l'émission, Fanny, que tu connais, donc est-ce que j'ai besoin de te le présenter?
Mais
Martin,
moi, non.
Bédard, directeur général du restaurant Bonaparte, qui fête son 40e anniversaire. Donc,
bravo,
je le répète,
aussi.
Cette
merci,
année,
merci.
100 ans, 40 ouais. ans, 105 ans.
On en est fiers.
Une institution du Vieux-Montréal.
Complètement.
D'ailleurs, c'est ma première question, elle est très simple. Qu'est-ce qui fait la longévité d'un restaurant et dans ce cas-ci particulièrement du Bonaparte?
Tout à l'heure, on parlait de constance et le Bonaparte, c'est...
La constance, Marie-Ève.
Oui, c'est une des preuves qu'on est là, et on est là pour perdurer encore. On est là longtemps, on est solide. C'est la constance, elle est autant dans l'accueil, dans le service, que de la qualité des produits qu'on offre, l'ambiance, le décor. Avec 40 ans, tu sais, dans un restaurant de fine cuisine, il faut aussi, comment je peux dire ça, s'ajuster avec le temps, tout en gardant notre philosophie. Donc, même si le décor a changé, on avait avant des balcons, on a enlevé tout ça. Donc, ça a agrandi la pièce. Ça l'a, comme on peut dire, rajeuni, mais tout en gardant un classique, tu sais, le classique du Bonaparte. Ça va aussi dans le menu qui a... on a nos classiques, on a les raviolis, le champignons.
Menu, oui, voilà, c'est ça que j'allais dire. Qu'est-ce qui a évolué dans le menu? Je le lisais avec délectation, évidemment, de tartare, de baluchon, de ravioli, de tapenade, de terrine.
Oui.
Moi, j'ai vu un étagé de tofu, c'est... Ah, ben!
Oui, ça, ben, ça, il n'y avait pas ça, il y a 10, 15, 20 ans.
Ouais.
Mais là, maintenant, la demande du végétarien, la végétalien... Donc, maintenant, on fait ça. Et,
oui, c'est sûr que c'est très viandeux, un exemple. Menu, quand même. Faut pas se le cacher.
Oui.
Hein?
Oui, c'est très viande.
C'est très viande.
Très poisson fruit de mer. Assumé. Oui, absolument. Oui. Oui, c'est français. C'est de la cuisine qui est riche aussi. C'est une cuisine, par contre... On n'est pas fusion. Tu sais, c'est pas la nouvelle cuisine.
Non, mais c'est réconfortant.
On est dans le classique. Très réconfortant.
Complètement.
Tu sais, nous, dans nos sauces, on n'a aucun gluten. On ne met aucune farine dedans.
Ah non, non, c'est des vraies réductions, alors.
Voilà, qu'on fait de la veille. Comme à l'ancienne.
Ouais, okay.
Et donc, les gens, même les jeunes, on a de plus en plus, on a une jeune génération de plus en plus, c'était notre défi.
J'allais y venir, évidemment.
Parce que notre clientèle, vous imaginez, il y en a qui ça fait 40 ans qu'ils nous suivent.
Donc, ils commencent à vieillir.
Donc, ils n'ont plus 40 ans. Moi, je suis le premier. Ça fait 35 ans que j'y suis.
Ils ont quasiment l'âge de Sardonna.
Oui.
Hein, donc,
oui, oui. Mais c'est très bien. Mais eux, leurs enfants viennent et on a une clientèle. Donc, il a fallu s'adapter aussi, autant sur le menu que sur les cocktails, par exemple. Ah. Alors, avant, moi, j'étais serveur et je faisais mes propres cocktails.
Oui.
Mais je ne suis pas, comme Fanny, un barman. Mais... on a maintenant des barmanes qui font des cocktails, des mixologues qui font des cocktails
du jour. Ça, c'est nouveau dans un resto de ce type, parce que c'est vrai que...
Oui, avant, les serveurs partaient, oui, vous voulez un martini, chac, on vous fait un martini.
Ben oui.
Mais là, on a vraiment des cocktails signatures. Donc, c'est dans ce sens-là aussi qu'on a évolué pour satisfaire, répondre à la demande aussi que les jeunes adorent. On fait des mocktails aussi. Donc, tu peux venir chez nous, puis tu n'as pas besoin de boire de l'alcool pour apprécier le repas qu'on offre. On fait des accords avec tout ça aussi. Les accords de vin ou d'alcool avec un menu dégustation. Ce qu'on n'avait pas non plus il y a 20 ans et plus, mettons.
Alors, justement, comment on rajeunit quand on veut rajeunir sa clientèle, mais qu'on veut rester quand même traditionnel sur le plan de la cuisine? C'est quoi la twist, à part des cocktails pour les attirer? C'est quoi le truc?
Ben, le truc, il faut être à l'écoute des tendances, de qu'est-ce qu'il y a, ça c'est sûr. Et il faut aussi être flexible, donc être prêt à, comme je disais tout à l'heure, à pouvoir changer des choses sans changer l'identité qu'on a.
L'essence.
Vous gardez son ADN.
Voilà. Donc,
c'est
nous,
important.
Notre menu est fait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas enlever du menu parce qu'on perdrait la clientèle. Il y a des gens qui arrivent au restaurant, qui ne regardent même pas le menu et qui savent exactement ce qu'ils veulent. Et c'est une des choses qu'il faut... Il faut être flexible, être à l'écoute. Moi, j'ai des serveurs maintenant, c'est des jeunes serveurs. Alors, c'est pas des serveurs qui sont prêts à être traités. Ils ont le goût d'être là, ils ont envie d'être là. Et eux aussi m'apportent, moi, des idées ou des « Hey, je suis allé dans un bar. » Ah oui, j'ai vu ça. Et moi, je suis le premier aussi à être très épicurien. Alors, je vais manger partout, le plus possible. Et puis, pour justement prendre des idées, des choses qui marchent, des choses qui marchent moins bien, qu'on peut transformé dans notre entreprise.
Est-ce que vous avez, par exemple, au menu en ce moment, un truc qui pourrait justement illustrer cette innovation?
On parlait de tofu, tant là. Alors, on n'avait pas de tofu il n'y a pas si longtemps.
Ouais.
Ensuite, on est revenu avec le bœuf bourguignon.
Alors, vous avez écrit à la bourguignonne.
À la bourguignonne. Alors, avant, on avait ça, on l'a enlevé du menu et il est revenu. On l'a revampé un peu.
Ah.
Et donc, on l'a mis à notre sauce, si on veut, justement.
C'est-à-dire?
Encore une fois, on ne révélera pas tout ce qu'on là-dedans, mais
c'est... Ah, des secrets de chef.
C'est souvent dans la présentation aussi qu'on a changé des choses.
C'est vrai.
Par exemple, le novarin de homard qui est à la vanille, on avait ça, nous, depuis le début.
Oui, parce que homard et vanille, c'est un mariage...
Merveilleux.
Succulent,
oui. Oui, succulent.
Oublié peut-être, mais...
Un peu oublié,
est-ce qu'il
exactement.
Pourrait revenir à la mode?
Oui,
hein?
Oui. Ouais. Et avant, on le servait, par exemple, avec la tête du homard. Mais bon, après... Il y a une époque où c'était très in, mais maintenant, c'était un peu old school. On n'a plus cette tête de homard. Donc, on évolue dans la présentation. Mais la qualité... La constance, c'est ce qui prime chez nous. On reçoit les gens comme si on les recevait à la maison.
Ouais.
Moi, j'ai fait du théâtre aussi. Et je dis toujours, showtime, on reçoit les gens comme une pièce de théâtre. On ne règle pas les problèmes des gens, mais on veut que pendant qu'ils sont chez nous, deux heures et demie,
ils oublient
leurs troubles, leur tracas, leur stress, whatever.
J'avais comme invité récemment, justement, dans le cadre de Montréal en Lumière, un chef français qui m'expliquait qu'il avait demandé à ses serveurs de prendre des cours de théâtre. Mm-hmm. Pour raconter les histoires de ses plats.
Mm-hmm.
C'est excellent.
Donc,
La restauration, c'est du théâtre. Moi, j'ai toujours dit à mes barman ou mes barmaids d'être derrière un bar, c'est une pièce de théâtre parce que tous les jours, on va faire des cocktails, mais tous les jours devant nous, on n'aura pas les mêmes gens. Comme c'est dans un théâtre, comme un acteur ou peu importe. Ça évolue, puis il faut s'adapter.
Et quand j'engage les gens, d'ailleurs, c'est une de mes critères. Moi, j'engage les gens, les serveurs, les assistants serveurs, avec des personnalités. Donc, je ne veux pas les former comme des robots.
C'est un casting.
C'est un casting. Mm-hmm. Puis même, j'ai déjà refusé des gens qui n'étaient pas à leur place, alors qu'ils étaient très compétents sur papier. Mais je disais, mais toi ici, tu n'es pas dans le casting. Et c'est important. Et il y en a pour tous les goûts. Il y a des gens qui vont aimer un serveur, une serveuse ou un autre. Et tout le monde a leur caractère, leur personnalité. Mais il y a une façon de travailler qui est la même. Donc, c'est peut-être qui différencie d'autres endroits où, des fois, c'est un peu, je trouve, un peu robotique. On sent que les gens ont appris par cœur.
Il y a une âme.
Quand on veut développer une expérience, il faut qu'il y ait une âme.
Mais complètement. Et puis, il faut le transmettre. Puis, c'est bien, je trouve que c'est super bien fait de la part du Bonaparte d'avoir mis un petit vent de fraîcheur, justement, puis de l'avoir modernisé. Parce que c'est vrai qu'il y en a certains restaurateurs, veut, veut pas, ils vont rester sur leur oreiller. Ça fonctionne, ça roule. Pourquoi changer quelque chose qui roule?
Ça tombe
en plan-plan.
Ça roule carré au moment donné.
Donner un petit coup de neuf, ça dépoussière les choses. On reste sur notre base, comme on disait, le même ADN. On vient le moderniser. On garde notre racine, mais voilà, on se met au goût du jour et on se met par rapport à la nouvelle clientèle qui vient nous trouver, quoi.
Est-ce que justement, parce que vous faites du casting quasiment, et en période de pénurie de main-d'œuvre, c'est pas difficile de trouver les bons acteurs?
Oui, c'est bien dit. dans la période COVID ou pénurie, nous, on était chanceux avec notre réputation. On a fait attention de garder notre équipe le plus possible. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui se sont recyclés. Et après, c'était un peu plus difficile, de trouver. Parce que chez nous, tu sais, on ne fait pas cuire un hamburger dans le micro-ondes. Ça nous prend une expertise, ça nous prend une connaissance, soit en vin, soit avec les plats, les nourritures, les cuisson. Donc, on s'en sort bien et maintenant, c'est presque derrière nous. Là, on voit vraiment, j'ai des CV super intéressants, mais que j'ai pas besoin, j'ai une équipe formidable.
Bravo.
Oui, merci.
Bravo, Martin Bédard.
Merci.
Je voulais vous faire pousser la chansonnette, mais finalement, la musique est déjà partie pour la fin de l'émission.
À une prochaine fois.
Voilà.
Merci de m'avoir reçu.
Vous venez d'échapper au supplice.
Ça m'aurait fait plaisir.
Parce que c'est un cadran caché qu'il a, théâtre, chant, et tout, et il faudra qu'on en reparle de ça.
Martin
parce que on en connaît d'autres restos comme ça où il y a des ténors qui viennent chanter. Bon, il y a déjà l'émission qui s'en vient, l'émission suivante qui se prépare à entrer dans le studio. On va devoir partir d'ailleurs assez rapidement. Je préviens mes invités avant de les remercier rapidement. Anne Gauvreau-Sibylle de Anne et Frères, la fromagerie dans Villeray, on vous invite à aller visiter à l'adresse.
Au 738 Jarry Est.
On remercie Bobby évidemment pour sa chronique très intéressante sur l'ordre des agronomes.
Ouais.
Marie Saint-Amour, propriétaire de la boulangerie Saint-Donat, bravo pour votre centième anniversaire. On continue à trouver vos produits
par toutes les bonnes épiceries.
Voilà, c'est une très bonne réponse. Merci Marie-Lou, salue pour la chronique sur les cabanes à sucre. Martin Bédard, on visite le Bonaparte à quelle adresse?
Au 443 Saint-François-Xavier.
Merci beaucoup, c'est fini pour ce soir. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne semaine et évidemment bon appétit.
Merci.
Cheers.
balado Les solutions climatiques de la COP Carbone a pour objectif de lutter contre les changements climatiques, une conversation à la fois. On s'engage à réfléchir, à sensibiliser et à agir ensemble, une fois par mois, jeudi 11h.
Parlons éducation, l'émission qui s'adresse aux gens qui s'intéressent à l'éducation avec Patrick Pirard
et Bernard Dufour, tous les dimanches de 11h à midi, chronique, point de vue, entretien, c'est un rendez-vous.
Salut, ici Philippe Papineau et je suis de retour à la barre de l'émission Francophile sur les ondes de CIBL tous les mercredis de 10h à midi. Francophile, c'est 2 heures de bonne musique francophone, un pied dans le son du moment et l'autre un peu plus nostalgique dans les racines de la scène alternative. J'ai très hâte de vous retrouver et de vous accompagner en musique. Francophile, c'est le mercredi de 10h à midi.
CIBL 105 Montréal.
Vivre Montréal.
Dans la radio communautaire, parce que les gens se sentent impliqués là, comme une espèce de longueur d'onde.
CIBL, au cœur de la vie citoyenne.